L'été. Bonjour à vous toutes et vous tous, nous sommes le lundi 23 janvier 2017, c'est Clotilde Seil au micro, très heureuse de vous recevoir et de vous présenter les paractualités du jour, avec comme titre « Caméra en CHSLD, la proposition de Québec inquiète les centrales syndicales, le travail à distance, le chouchou des personnes vivant avec un handicap, le gouvernement du Canada améliore l'accessibilité pour les Canadiens handicapés dans les milieux de travail et les collectivités. Et puis, styliste médical, un nouveau métier adapté au handicap. Deux entrevues aujourd'hui avec Maude Cohen, notamment PDG de la Fondation du CHU Sainte-Justine, puisque c'est le mois des câlins. Et puis, c'est le fun, hein, commencer un lundi en parlant de câlins. Et puis également, je vais m'entretenir ici en studio avec Geneviève Labrec, qui est directrice générale du regroupement pour la trisomie 21. Alors, d'après le reportage de Mathieu Dion, caméra en CHSLD, la proposition de Québec inquiète les centrales syndicales. Si l'objectif du projet de loi sur la maltraitance envers les aînés fait l'unanimité parmi les grandes centrales syndicales, l'un des moyens préconisés par le gouvernement pour l'atteindre est vu d'un mauvais œil par plusieurs d'entre elles qui exigent que l'utilisation des caméras par les résidents soit balisée. Cette requête trouve écho auprès de la présidente de la CSQ, Louise Chabot, qui estime que le recours à de tels enregistrements devraient être exceptionnels et temporaires. Pour Guy Lorion, c'est un poids supplémentaire qu'auront apporté les travailleurs. Le personnel est le premier sur la ligne de front, souligne-t-il. Il subit déjà les compressions budgétaires, la réorganisation du réseau de la santé et des services sociaux, et en plus on amène dans son milieu de travail un moyen de contrôler ce qu'il fait. Ça va créer des climats qui ne sont pas propices à l'établissement de la relation d'aide qui est nécessaire entre l'usager et le personnel soignant, ajoute-t-il. Le président de la FTQ, Daniel Boyer, en a contre ce que laisse sous-entendre cette nouvelle mesure. C'est comme si l'on prétendait que l'ensemble des gens ou une majorité des préposés aux bénéficiaires étaient des délinquants, a-t-il dénoncé en point de presse. Les règles envisagées par Québec interdisent l'utilisation publique des enregistrements vidéo et par ailleurs, la caméra ne devra pas porter atteinte à la vie privée d'autres résidents et son utilisation continuelle ne sera pas privilégiée. Le travail à distance, le chouchou, c'est une collaboration spéciale pour le Journal de Montréal de Job Illico. Le travail à distance est de plus en plus adopté par des travailleurs ainsi que leurs employeurs. Pour quelles raisons ce mode de travail grandit-il en popularité? C'est ce que nous allons tenter d'expliquer en vous présentant différents types de travailleurs. Il existe plusieurs façons, plusieurs raisons de favoriser le travail à distance. Augmentation de la productivité, diminution du taux d'absentéisme, économie en espace de bureau et en frais d'entretien ménager, etc. Selon une étude de Gallup, une entreprise américaine spécialisée en gestion des ressources humaines, 37% des travailleurs américains ont effectué du travail à distance en 2015, soit quatre fois plus qu'en 1995. Ces travailleurs, américains ou non, peuvent être indépendants, nomades, salariés ou en situation de handicap. D'après une étude de Statistique Canada, environ 2 338 200 Canadiens âgés de 15 à 64 ans, soit un peu plus de 10% de la population pour ce groupe d'âge, avaient une incapacité en 2012. Eh bien, parmi ces personnes, 125 700 étaient au chômage et 1 155 000 étaient inactives. Grâce au télétravail, elles ont la possibilité de gagner leur vie sans avoir à quitter leur chez-soi. Toujours selon cette même étude, 16,3% de travailleurs potentiels et 3,3% des employés en situation de handicap ont besoin du télétravail en tant que mesure d'adaptation. En résumé, le travail à distance répond à plusieurs besoins, que ce soit celui de pouvoir habiter en région ou de voyager selon ses envies. Fait-il partie des mesures que vous recherchez en tant qu'employé ou travailleur autonome? « On aime se faire entendre parler de câlins, hein, surtout par un lundi matin un petit peu gris et tristounet dehors. J'ai la chance de pouvoir m'entretenir maintenant avec Maude Cohen, qui est présidente directrice générale de la Fondation du CHU Sainte-Justine. Bonjour, Madame Cohen.
Bonjour.
Alors, c'est le mois des câlins.
Oui, c'est le mois des câlins, effectivement.
Ah, c'est un mois que vous devez attendre, parce que c'est la 11e édition, à mine de rien.
Oui,
et
tout
c'est,
à fait.
C'est un mois assez fructueux et assez sympathique. Je voudrais d'abord vous demander d'où est venue cette idée-là?
Ben en fait, c'est sûr que nous, on travaille beaucoup avec Rythme FM à travers deux grandes campagnes, mm-hmm. Le Grand Sapin et oui. Effectivement le Mois des câlins. Et ce sont nos partenaires, Clarins et Jean Coutu, mm-hmm. qui cherchaient une façon, en fait, de nous aider et de le faire de façon sympathique et oui. Non traditionnelle et qui en sont venus avec cette idée qui est fantastique, en fait, de faire un embellisseur à lèvres qui est fabriqué par Clarins annuellement, avec une couleur vraiment spécifique au mois des câlins et qui est exclusive, et de faire une campagne annuelle pour en vendre dans les succursales du groupe Jean Coutu. Et évidemment, tout ça avec, grâce à notre partenaire Rythme FM, on réussit à en parler de façon adéquate pendant
et on ne vous en veut pas. parce que je trouve ça fantastique. Le principal, c'est qu'il se passe quelque chose, qu'on pense évidemment au bien-être des enfants et surtout à l'amélioration des soins de santé, j'imagine, la recherche.
Exactement. Oui, le CHU Sainte-Justine, c'est une organisation qui a trois missions. On oublie souvent, c'est un hôpital universitaire, donc oui. La mission d'enseignement qui est souvent oubliée. On forme la future génération de pédiatres et de spécialistes en soins pédiatriques, donc les oncologues pédiatriques, les cardiologues pédiatriques, les pédiatres. Alors, il y a une certaine portion de la mission qui est attribuée effectivement à l'enseignement. Il y a une portion de la mission qui est au niveau de la recherche, parce que la recherche pédiatrique a des besoins qui sont tout à fait différents de la recherche normale pour l'adulte. Mm-hmm. Et ensuite, évidemment, il y a les soins spécialisés et surspécialisés qui sont offerts aux enfants qui sont atteints vraiment souvent de déficiences ou de maladies très chroniques, très importantes, qui nécessitent des soins importants, des soins spécialisés.
Alors, il y a notamment le centre qu'on appelle Sirène, hein, je pense, le centre intégré du réseau en neurodéveloppement de l'enfant. Ça fait partie des centres, évidemment, qui vont bénéficier de cet argent qui va tomber, parce que vous en attendez quand même pas mal. Hein. Je voyais dans les autres années, dans le cadre du mois des câlins, plus de 3 millions de dollars en 10 ans.
Oui, effectivement, plus de 3 millions de dollars en 10 ans. Bon, maintenant, on arrive à vendre 30 millions d'embellisseurs lèvres. L'année dernière, c'est 30 000 embellisseurs lèvres.
OK, d'accord, parce que je me disais 30 millions, oh là là.
Non, on
fait de l'exportation.
30 000, j'ai fait un lapsus. 30 000 embellisseurs lèvres. Et puis, le groupe Jean Coutu est un partenaire qui nous donne une commandite additionnelle. Donc, l'année dernière, c'est près de 400 000 $ qui ont été levés à travers le mois des câlins. Effectivement, ça sert à financer depuis 5 ans le centre Sirène qui aide les familles à poser un diagnostic plus rapide au niveau de leurs enfants lorsque les parents se doutent qu'il y a des enjeux, soit de retard dans le développement de neurologique. Donc, on peut parler aussi de troubles de comportement. On parle de l'autisme, le TDAH, des enjeux d'épilepsie, souvent de déficience intellectuelle légère ou plus importante. Les parents peuvent, à travers ce réseau-là, accéder à un questionnaire qui leur permet d'avoir un premier diagnostic.
Assez rapidement.
Assez rapidement. Et avec ce premier diagnostic-là, on est en mesure de voir si l'enfant a besoin de soins plus poussés et donc d'être référé à Sainte-Justine, ou des soins qui peuvent être faits de point de vue local, mais qui peuvent vraiment, s'ils sont amenés très rapidement, aider grandement le développement de l'enfant.
Et puis, je voudrais que vous me parliez du concours « Dessine-moi un câlin ».
Oui, c'est un concours qui est très mignon, en fait, parce que ça existe depuis 3 ans. enfants et on demande en fait aux enfants de nous dessiner un câlin et l'enfant qui gagne, dont le dessin est gagnant, a l'honneur de voir son dessin sur la petite boîte de l'embellisseur lèvres qui est vendue dans les succursales Jean Coutu. Alors c'est très très mignon, les enfants participent en grand nombre. On a eu beaucoup, beaucoup de difficultés à sélectionner la gagnante cette année, mais ça permet de rendre, en fait, de personnaliser l'initiative davantage.
Alors, il y a vous avez des partenaires, vous nous en avez parlé, vous avez des parrains et des marraines, mais est-ce qu'il va y avoir des vrais câlins donnés aux enfants?
Ben, en fait, des câlins, c'est sûr que c'est symbolique tout ça.
Oui, bien sûr. J'imaginais ça, moi, je sais pas. Tu sais, c'est parce que on sait à quel point c'est important pour les enfants quand ils sont malades et quand ils sont. Moi, j'imaginais bien, j'imaginais bien Mitsou, par exemple, aller hop, débarquer à Sainte-Justine et faire des câlins à des enfants.
Ben, je vous dirais, nos fées câlines et nos parents câlins viennent régulièrement.
Ils viennent.
Ils sont d'une généreuse, vraiment d'une générosité extrême.
Je me doute.
Ils acceptent de prendre des photos avec les gens sur place.
Oui.
Ils font effectivement des câlins.
Oui, oui.
Ils sont vraiment... Non, on parle de Mitsou, mais on parle aussi de Marie-Solène Michon. On parle de tous ces animateurs.
Julie Bélanger, Jean-François Barry, Sébastien Benoît, voilà. Tous impliqués.
Tous impliqués, vraiment. Puis on sent qu'année après année, on bâtit vraiment quelque chose de précieux avec ces animateurs qui sont attachés à Sainte-Justine vraiment de façon particulière et à leurs enfants, évidemment, les enfants qui viennent ici à l'hôpital. Alors, ils sont engagés, je peux vous le dire, il y en a des câlins qui se donnent.
Il y en a qui se donnent, voilà. Il n'y a pas de câlins qui se perdent, quoi.
Non,
c'est ça le
principe.
C'est le principal. Alors, donc, on ne saurait que trop recommander aux personnes qui nous écoutent d'aller se procurer ce rouge à lèvres qui s'appelle, lèvres rose câlin.
Oui.
Et ça coûte 20 $, hein.
Voilà,
donc c'est la moitié qui s'en va pour Sainte-Justine.
Tout à fait.
Écoutez, merci beaucoup. C'est jusque quand pour finir?
Alors, c'est jusqu'à l'épuisement des stocks. En général,
parfait.
Le 14 février, le jour de la fermeture de la campagne, il n'en reste plus. Il n'en reste plus des fois bien avant. Alors, ceux qui veulent s'en procurer, c'est le moment ou jamais. Là,
d'accord.
Parce qu'il y a certaines succursales qui en ont déjà plus. Alors, il faut y aller rapidement.
Dès que je sors du studio, c'est promis, Madame Cohen. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et bonne journée.
Merci, au revoir.
Au revoir. Dans l'Express Mancalm, ce papier de Gilles Meunier, où on nous dit que la FADOC Lanaudière a rendu hommage à Isaac Achour. On ignore si c'est Isaac Achour qui a... Isaac, qui a inspiré le programme Vie Active. Il aurait bien pu, mais chose certaine, il a été un important personnage actif pour ce projet. La FADOC Lanaudière lui lève son chapeau. L'implication de M. Achour au sein de sa communauté fait époque. Toujours actif, M. Achour est de tous les combats et sa participation au programme Vie Active a été marquante. Grand bénévole de Vie Active depuis le début de ce programme, il y a plus de 20 ans. Il en fut président plusieurs années. Il a aussi initié des groupes dans plusieurs milieux, notamment à Rauden, à Mascouche, à Saint-Lin-des-Laurentides, etc. Et encore tout récemment, il a dépanné un confrère pour animer la session. Le 12 janvier dernier, lors d'une journée porte ouverte, la FADOC Lanaudière lui a rendu un hommage particulier en nommant dans ses nouveaux locaux du 626 boulevard Manceau à Joliette une salle portant son nom. Alors, joint au téléphone, le principal intéressé s'est dit à la fois surpris et très fier de cet honneur. On ne fait pas du bénévolat pour avoir des fleurs et des gratifications, mais disons que c'est l'apothéose de mon travail de bénévole. Je n'avais jamais pensé à ça. Cette reconnaissance me fait extrêmement plaisir à mentionner M. Achour, qui veut aussi remercier la FADOC d'avoir eu la gentillesse de reconnaître ce type de bénévolat. Et pourquoi a-t-il une si grande implication pour le programme Vie Active? Eh bien, parce qu'il est sportif, parce qu'il a fait de la boxe et de la course à pied et qu'un jour, le président du club de l'âge d'or de Saint-Lin lui a demandé s'il était intéressé à mettre sur pied des exercices pour faire bouger les personnes âgées. Et, dit-il dans un grand éclat de rire, il ne demandait que cela. Alors désormais aussi, il faut savoir que grâce à l'entrée donnant sur la rue Saint-Barthélemy et le stationnement, les personnes à mobilité réduite bénéficient d'un accès directement au niveau du sol extérieur. De même, le nouvel ascenseur leur permet de se rendre aux salles de formation du rez-de-chaussée et du deuxième étage. L'agrandissement de l'immeuble accroît considérablement les capacités d'accueil, permettant ainsi de tenir des ateliers simultanés dans les diverses salles. Et si vous ne savez pas de quoi je parle parce que vous venez juste de vous joindre à nous, eh bien, je parle de l'inauguration des nouveaux locaux de l'organisme La FADOC, Lanaudière, qui a rendu donc un hommage bien mérité à Isaac Achour. Alors, j'ai maintenant en studio, oui, je suis contente de l'avoir, Geneviève Labrec. Bonjour. Bonjour Geneviève, comment allez-vous?
Ça va bien, merci.
Geneviève, je voudrais rappeler que vous êtes directrice générale du regroupement pour la trisomie 21. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de recommandations pour l'inclusion numérique pour l'UQTR.
En fait, le Centre de partage d'expertise en intervention technoclinique du QTR, l'Université du Québec à Trois-Rivières, a produit l'année dernière, en 2016, une charte pour des technologies numériques avec 10 recommandations. Et la 10e recommandation, elle a été faite par des personnes qui ont une déficience intellectuelle et un TSA.
En effet. Alors, je dirais tout de suite quand même aux auditeurs que j'ai pris connaissance, j'ai lu de cette charte et des 10 recommandations. On va peut-être avoir du mal de passer au travers les 10, mais quand vous nous parlez, par exemple, de cette dernière...
Oui.
Quelle est-elle,
Elle s'adresse à tout le monde. C'est de reconnaître leurs besoins aux personnes qui ont une déficience intellectuelle, d'avoir accès à la technologie par la mise en place de programmes. Je vais donner un exemple tout simple. Une personne qui a une déficience intellectuelle qui va sur le marché du travail, la plupart des maintenant les paye, on les reçoit souvent en dépôt direct. Donc, il faut être capable de gérer le compte, par exemple, accéder de Desjardins. Si on ne leur montre pas comment faire, ils n'ont pas accès aux mêmes choses que nous ils vivent encore de l'exclusion. Donc, c'est important de penser aux personnes qui n'ont pas nécessairement eu la formation pour naviguer dans toutes les applications technologiques. Nous, au regroupement pour la trisomie 21, quand on a vu cette charte-là, on l'a appuyée parce qu'on veut que les personnes soient incluses.
Bien sûr.
Et maintenant, c'est pas juste, c'est surtout au niveau social. On va acheter, par exemple, de la musique par Internet maintenant. On va faire des paiements par Internet. On va envoyer des courriels. On le sait, là, les postes sont moins fréquentes. On veut fermer les boîtes postales, la poste à domicile. On reçoit beaucoup, beaucoup de choses par courriel. Les personnes qui ont une déficience intellectuelle doivent apprendre à utiliser un courriel.
Voyez-vous, il faut recevoir des gens aussi comme vous, quand on n'est pas nous aux prises avec ce type de déficience. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte à quel point le numérique fait partie de nos vies, mais du matin au soir, enfin, ils sont même en train de nous créer des appartements intelligents qui vont nous ouvrir les lumières à l'heure où on va rentrer. Non, mais je veux dire, c'est fou, quoi. Et finalement, est-ce qu'on pense encore... Est-ce que le numérique est vraiment approprié quoi, pour des gens?
En fait, ça peut tellement développer leur autonomie. Il y a tellement de choses, le fun avec le numérique. Il faut penser à ça aussi. Par exemple, vous parlez des lumières. Moi, à la maison, j'ai une serrure intelligente. Donc, quand j'arrive à la maison, je donne une tape sur ma serrure et elle débarre tout seul. Pour une personne qui a une déficience intellectuelle ou des problèmes physiques et le mouvement de tourner une clé est difficile, cette application-là, elle est magique.
C'est fantastique.
Il y a plein de choses qui existent. Je pense au thermostat Nest quand on a un thermostat numérique à la maison, on peut programmer puis faire partir le chauffage avant qu'on arrive et on regarde notre application au travail, on dit « Oh, il fait très chaud, je vais partir ma climatisation avant d'arriver à la maison pour que ça soit frais. » On peut tout faire ça. Et ça peut aider des personnes qui ont une déficience intellectuelle, les appartements intelligents.
Bien sûr.
Par contre, il faut leur montrer avant la base.
C'est ça. Donc, il faut rendre accessible, j'imagine, des formations, des choses comme ça. Et c'est ce que cette charte réclame. C'est bien ça?
Elle réclame beaucoup de choses. On pense aussi, je vous dirais, des sites web où il y a plein de choses qui popent de partout. C'est très difficile pour une personne qui a une déficience intellectuelle de se concentrer quand il y a plein d'images. Donc, on pense à tout avec cette charte. Mais je vous dirais, nous, au regroupement pour la trisomie 21, quand on a pris connaissance de ça, on s'est dit, bien, c'est beau, les jeunes qui ont une trisomie 21 de 5, 6, 7 ans naviguent très facilement, par exemple, avec une tablette. Mais une personne qui a 25 ans, 30 ans, qui n'a pas eu accès à ça dans sa petite enfance, c'est très difficile. Donc, nous, on a parti un programme d'apprentissage On a appelé ça on a appelé ça le programme TASA, qui est pour les technologies au service de l'autonomie.
Oui.
Et là, en ce moment, on a 16 jeunes qui viennent à tous les jours variables. Il y a des journées où ils sont plus nombreux que d'autres. Et on leur montre à se débrouiller avec les technologies. Donc, ils sont tous des champions là, pour aller jouer ou aller sur YouTube. Mais pour ouvrir une boîte courriel, je vous dirais qu'il y en a qui partent de beaucoup plus loin. On en a qui sont très bons déjà. Mais on va essayer de leur montrer la base, comment écrire un courriel. Et même si on ne sait pas écrire, on peut envoyer des courriels, on peut envoyer des textos grâce à des applications avec, par exemple, des images où on peut dicter ce qu'on va écrire et ça va l'écrire pour nous. Mmh. Donc, il faut les habituer puis les aider à être inclus au niveau du numérique aussi.
Je vous écoute, puis je les imagine, et c'est vrai que je n'avais jamais pensé à toutes ces fonctions-là. Il me semblait que c'était comme une barrière de plus, mais non, finalement, c'est une barrière qu'il faut lever parce que ça peut être un chemin vers la liberté.
Et je vous dirais, tout ce qu'on développe pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle peuvent être appliquées après ça avec des personnes âgées qui n'ont pas connu ces technologies-là.
Oui.
Envoyer un courriel, vous savez, moi, j'ai des jeunes qui m'envoyaient des courriels puis qui ne commençaient pas par bonjour. J'ai dit non, un courriel, ça commence par bonjour. Donc, il y a de l'éducation aussi au travers de ça.
Oh, remarquez, ça, il y a de l'éducation à tout le monde à faire à ce niveau-là.
Exactement.
Parce que de moins en moins, on dit bonjour. Bon, est-ce que vous avez besoin d'aide par rapport à ça? Est-ce que vous avez toujours besoin d'aide?
Écoutez, au regroupement, on est subventionné à 24 % de notre chiffre d'affaires et on part des programmes complètement fous comme ça. Mais ô combien stimulant. Et on voit quotidiennement ce que ça fait. Donc oui, on est toujours à la recherche de financement pour des beaux projets comme
celui-là. Des formateurs?
Des formateurs, on est associé avec le CREP, qui est le Centre de pédagogie de la CSDM, de la Commission scolaire de Montréal.
D'accord.
Donc on a un enseignant, c'est vraiment un programme de formation. Il y a un enseignant qui est sur place, qui enseigne aux jeunes qui ont une trisomie 21, et on a une intervenante aussi pour adapter du matériel.
Bravo Geneviève Labrecq.
Merci.
Nous sommes très, très heureux une fois de plus d'avoir pu vous accueillir à cette émission et puis d'entendre, on avance.
On ne recule pas.
On ne recule pas en tout cas. Puis là, voyez-vous, il y a une magnifique nouvelle que je vais lire dans quelques secondes parce que je pense que vraiment l'honorable Carla Caltro, que nous avons maintenant comme ministre fédéral, est en train de faire avancer les choses.
Ça fait du bien.
Ça fait du bien. Bon, même si on sait que la machinerie sera lourde à faire bouger, mais il n'empêche que ça commence par ça. Et,
je l'ai rencontrée l'année dernière. C'est une femme extraordinaire.
C'est une femme fantastique. En tout cas, moi, assez régulièrement, on a des nouvelles comme ça qui nous arrivent. Bon, évidemment, du gouvernement, mais pour nous dire ce qui est fait par cette femme-là. Et je vous dis, dans quelques secondes, là, je vais vous parler de 573 projets.
Wow.
Ni plus ni moins, pour aider à l'accessibilité et à l'inclusion de personnes handicapées. Geneviève Labrecq, je rappelle que vous êtes la directrice générale du regroupement pour la trisomie 21. J'ai été très heureuse de vous parler.
Moi aussi.
Au plaisir.
Bientôt.
Alors, actualité nationale, le gouvernement du Canada améliore l'accessibilité pour les Canadiens handicapés dans les milieux de travail et les collectivités. La ministre des Sports et des Personnes handicapées, l'honorable Carla Caltro, a visité aujourd'hui le Centre for Child Development, Development of the Lower Mainland pour annoncer l'approbation de 573 projets dans le cadre du Fonds pour l'accessibilité. La ministre a expliqué comment ces projets aideront le gouvernement du Canada à respecter son engagement d'offrir une meilleure accessibilité et plus de possibilités pour les Canadiens handicapés dans les milieux de travail et les collectivités. Les Canadiens handicapés rencontrent chaque jour des obstacles qui les empêchent de participer pleinement aux activités dans leur collectivité et en milieu de travail. Le gouvernement du Canada est déterminé à réduire ces obstacles à l'accessibilité et à assurer un accès égal à des chances égales pour tous, grâce à ces programmes comme le Fonds pour l'accessibilité. C'est pourquoi dans le budget de 2016, le gouvernement s'est engagé à fournir un financement supplémentaire de 4 millions de dollars sur 2 ans, dès 2016-2017, afin de soutenir des activités de construction et de rénovation d'immeubles visant à améliorer l'accessibilité et la sécurité pour les personnes handicapées au sein des collectivités canadiennes. Le volet accessibilité en milieu de travail du Fonds pour l'accessibilité donne aux entreprises admissibles et aux autres employeurs partout au pays, notamment les organismes sans but lucratif, les entreprises à vocation sociale, les petites municipalités, les organisations autochtones et les gouvernements territoriaux, l'occasion de présenter une proposition de financement pour des projets de construction, de rénovation et de réaménagement visant à améliorer l'accessibilité et la sécurité des personnes handicapées, y compris la mise en place de technologies de l'information et des communications accessibles pour le travail. Et là, je jette un petit coup d'œil à Geneviève Labrec qui est restée en studio. Alors, pourvu que ces fonds, à un moment donné, parviennent jusque dans les poches, hein, jusque dans le compte en banque de regroupement comme celui pour la trisomie 21, ce sera bien apprécié, je pense. Actualité internationale, savez-vous qu'il y a une jeune femme en France qui a créé un nouveau métier? Ça s'appelle le stylisme médical. Alors, ce projet, eh bien, cette femme, comment est-ce qu'elle en est venue à créer et que fait-elle exactement en tant que styliste? Eh bien, elle-même a été une patiente. Entre l'âge de 19 et 29 ans, elle a dû porter un corset orthopédique pour soigner une scoliose sévère et deux hernies discales. Et en parallèle, eh bien, elle a suivi des études d'art et de stylisme. En 2014, alors qu'elle démarrait sa carrière dans le prêt-à-porter, son médecin rééducateur du dos lui a lancé un défi. Il lui a dit « Pourquoi tu ne créerais pas des vêtements à la fois jolis et adaptés ?» Il a alors mis à sa disposition une pièce dans son cabinet à Nice. Alors, chaque mercredi, elle recevait des adolescentes. Elle discutait longuement avec elles pour adapter le vêtement à leur pathologie, pour choisir les matières et les couleurs. Et ensuite, elle concevait une pièce sur mesure pour qu'elles se sentent bien et acceptent notamment de devoir porter un corset. Alors aujourd'hui, elle s'adresse à des patients de tous les âges atteints de diverses pathologies ou d'un handicap utilisant un appareillage mobile, fauteuil roulant, béquille, déambulateur, etc. Ils sont aussi destinés aux personnes suivant un traitement exigeant l'utilisation de matériel, sondes, perfusions, pompes, etc. Je vous redonne son nom, d'ailleurs, vous l'ai-je donné, Anne-Cécile Ratzin-Basson, et elle a donc créé un nouveau métier, styliste médical, et pourvu que ça donne des idées à d'autres. Alors, rapidement maintenant, pour conclure l'émission, les ateliers, formations et activités du Campagnol, un groupe d'entraide et milieux de vie en santé mentale, permettent aux gens de parler de leur expérience de vie pour ainsi trouver leurs propres solutions, et ce, sans jugement. À venir le 23 janvier à 13h, des modèles à coller, ce sont des casse-têtes 3D qu'on invite à faire. Le 24 janvier à 13h, il va y avoir un atelier, une conférence, réunion qui s'appelle « On s'organise ». Le 25 janvier à 13h, la jazette. Le 26 janvier à 10h, un comité journal. À 13h, on parle de « oui ». Peut-être de Wi-Fi, je pense qu'il m'a... Ah non, on parle de la tablette, oui, et de jeux interactifs avec ce jeu. Le Campagnol est ouvert du lundi au jeudi de 8h à 16h. Si vous voulez des informations, il y a une page Facebook qui s'appelle simplement Le Campagnol, ou sinon on peut aller sur le site www.lecampagnol.com. Weebly.com. Passez donc par Facebook, ça va être plus simple. Voilà, c'est ainsi que s'achèvent ces paractualités du jour. Je vous remercie de les avoir suivies. C'était Clotilde Seille qui vous souhaite une bonne journée, qui remercie son équipe. Bonne journée tout le monde, à demain 11h30.